Mediterráneo Isurá na Córsega, Sardenha, Sicília.
Guidati dalla svedese Greta Thunberg, i giovani di tutto il mondo si mobilitano contro il riscaldamento climatico, contro un modello di sviluppo dissennato che sta distruggendo il pianeta. In poche parole, lottano per un futuro migliore, il loro. Giovani che per questo vanno sostenuti, incoraggiati e ringraziati. Benvenuti a Mediterradio, la voce delle isole. Ogni settimana Sardegna, Sicilia e Corsica assieme sulle frequenze della RAI e di Radio Cors Frequenza Mora. Tre isole, tre studi, tre conduttori. Vito Biolchini da Cagliari, Salvatore Cusimano da Palermo e Petru Luigi Alessandri da Bastia. Saluti amici.
Saluto ai nostri fedeli ascoltatori di l'isole e d'altro. Oggi volerebbe mandare un saluto fraterno a tutti i sardi di Corsica che sono stati di sicuro ingiuliati da scrizione sardi fora nanta un muro di un commercio di Basterigaccia, un gesto stupido che un rigoglie la consento di abubulazione. Un caro saluto dunque ai nostri amici sardi che sono in Corsica in casa soia.
Hai fatto bene, Vito, a ricordare il momento che i giovani stanno vivendo, e penso che la cosa che devono fare quelli della mia età, se non altro, è di essere vicini col cuore, ma di stare un passo indietro, perché la battaglia è una battaglia che devono condurre loro in prima persona.
I temi di oggi, allora, andremo in Corsica per raccontarvi l'attività dell'associazione Pratica Lingua e per scoprire i segreti dei nomi di persona prettamente corsi che ora tanti genitori stanno dando ai nuovi nati. Poi andremo in Sardegna e in Sicilia. Alessandra Napoleone è una cardioanestesista cagliaritana che lavora per Emergency, di cui è ora anche testimonial, e che ci racconterà la sua esperienza negli ospedali africani. Paola Caridi, scrittrice ed esperta di Medio Oriente, ha invece deciso di vivere nel cuore della Sicilia multietnica. L'ultimo suo libro è dedicato ai bambini per aiutarli a scoprire il valore dell'altro. Ancora donne a Mediterradio. Sentiremo Costanza Quattriglio, nuova direttrice della sezione di Palermo del Centro Sperimentale di Cinematografia che forma i nuovi documentaristi, e la regista sardo-australiana Lisa Camillo che ha girato un film, Valentes, e scritto un libro, Una ferita italiana, sulle servitù militari, sull'inquinamento delle fabbriche petrolchimiche in Sardegna. Verranno presentati entrambi a Cagliari il prossimo 4 ottobre. E di questo parliamo in apertura. Cresciuta in Costa Smeralda e poi trasferitasi con la famiglia in Australia, Lisa Camillo era tornata in Sardegna per raccontare i 50 anni della zona turistica creata dall'Aga Khan negli anni 60 e che ha reso famosa l'isola in tutto il mondo. Una volta giunta in Sardegna, la giovane regista ha però cambiato idea, decidendo che sarebbe stato più utile raccontare la lotta dei sardi contro le servitù militari. È nato così il film Valentes, i coraggiosi, già distribuito in Australia e negli Stati Uniti e che sarà proiettato venerdì prossimo al cinema Odissea di Cagliari.
Valentes è uscito ai cinema australiani, ha fatto 34 proiezioni in tutta l'Australia, da nord a sud, est e ovest, è stato accolto in maniera incredibilmente positiva, anzi ero stupita perché la maggior parte degli australiani neanche sanno dove sia la Sardegna, e deve essere insomma stata accattivante proprio la storia, coinvolgente, e soprattutto ci sono stati molti che mi hanno supportato proprio nella lotta contro le basi militari.
La tua è anche la storia di una scoperta personale, perché sapevi delle basi, ma forse non avevi la consapevolezza, così come molti sardi, dell'impatto che hanno nel territorio e nell'economia.
Quando ero piccolina mi ricordo che vedevo i sottomarini americani passare proprio davanti dove siamo noi, alla base della Maddalena. Però sai, quando sei piccolo non ti rendi conto. E in più non sai dei problemi che stanno causando, che sono veramente sconvolgenti. La gente che guarda il film si è incredibilmente stupita e scioccata di quello che, dell'impatto che ha umano, ecologico e anche sociale.
Dopo il film è arrivato un libro, Una ferita italiana. Quanto è stato difficile recuperare la documentazione per parlare di basi militari in Sardegna?
Qua quanto il film, come l'ho fatto per il film, ho fatto la ricerca per il libro, ma mentre il film non ha potuto includere anche le industrie petrolchimiche, nel libro grazie a Dio sono riuscita a mettere tutto quanto. Ogni qualvolta si vuole parlare di questo problema viene schiacciato da quelli proprio che profittano sulla nostra pelle. Allora, il 4 aprile io sono stata in Parlamento a parlare proprio del problema delle basi in Sardegna davanti al Ministro della Difesa e della Salute. Insieme a me hanno anche parlato altri miei colleghi del problema dell'urano impoverito nei Balcani. Quando è stato trasmesso nel telegiornale mi hanno avvisato che non avrebbero messo il mio intervento perché c'è stato un comando dall'alto che non volevano assolutamente far vedere quello che stava succedendo in Sardegna.
La regista Costanza Quatriglio è da qualche mese direttore artistico e coordinatore didattico della sede di Palermo della Scuola Nazionale del Cinema, dove si formano i nuovi documentaristi. Apprezzatissima in tutto il mondo per i suoi lavori, Costanza passa dall'altra parte della telecamera per trasferire la sua esperienza agli studenti. Tra i suoi film più premiati, L'Isola, Terra Matta, Con il fiato sospeso, Triangle, 87 ore e il recente Sembra mio figlio. Alla Scuola del Documentario di Palermo si sono formati artisti che ormai navigano nel mare aperto del cinema con grande successo, fra i tanti Davide Vigore, Giovanni Todaro, Davide Gambino, Camilla Iannetti. Ecco cosa significa questa esperienza per una regista abituata a lavorare con i suoi soggetti, le sue visioni del mondo e le sue storie.
È come continuare a girare ininterrottamente, diciamo, in qualche modo. Fai la regista all'infinito, perché dirigere un corso di cinema documentario e coordinare gli allievi significa avere una visione che necessariamente deve essere messa alla prova, quindi c'è la prova della pratica. E chiaramente il mio lavoro è un lavoro che costantemente mi mette in gioco, anche in questo campo, quindi è una cosa molto bella, sorprendente ed entusiasmante.
Lei è regista pluripremiata e molto affermata. Quale impronta vuole dare alla scuola?
Voglio dare un'impronta e sto, si spera, insieme a tutti i miei collaboratori, dando un'impronta di una scuola in cui non c'è confine tra le arti, in cui lo sguardo sulla realtà è uno sguardo a 360 gradi, in cui potremmo dire la complessità è ben accetta, diciamo, si addestra lo sguardo alla contemporaneità, cercando il più possibile di offrire ai ragazzi una pluralità di sguardi, quindi tanti sguardi differenti, perché ognuno possa avere il proprio, ognuno possa scegliere il proprio sguardo sul mondo.
Siete stati a Venezia, che è un bellissimo risultato.
Alla Mostra del Cinema di Venezia siamo stati la serata del 5 di settembre alla Villa degli Autori, grazie alle Giornate degli Autori, una collaborazione insieme alla Film Commission siciliana, ed è stata una serata molto bella in cui i ragazzi hanno presentato il trailer dei loro film di diploma o clip brevi delle esercitazioni in corso, ed è stato come una grande festa intorno alla scuola in cui tutto il mondo del cinema di Venezia, tutto, insomma quasi tutto, l'ho abbracciato, ed è stato molto 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 emozionante per tutti.
Allora, il cinema come testimonianza di realtà di oggi e di realtà che i poteri politici, economici e anche sociali vogliono obiettare, nasconde, e quasi militare, sono orgogliosi, e oggi da Dino una possibilità di sapere, portanto, di quello che paga in cui sono impositi, ma i poteri sono zitti e muti. Hai delle camere come quella di Lisa Camillo, rompono così il silenzio di un sguardo. E Costanza Quatriglio in Sicilia di sicuro impara a guardare cosa non ci tocca mica a vede, e impara i suoi elevi a guardare i suoi elevi registi e a regio.
E soprattutto insegna la complessità in un periodo in cui le semplificazioni stanno veramente abbassando il livello di ogni confronto e di ogni dibattito.
È vero, i giornali spesso sono costretti a un mordi e fuggi insopportabile, e invece l'approfondimento, il racconto disteso aiuta a comprendere le sfumature, tutte le sfumature della realtà. Il documentario va vincendo piano piano in tutto il mondo.
La musica dalla Sardegna e il blues come filosofia di vita, questo ha unito Eleonora Usala alla voce, Federico Valenti alla chitarra, Frank Starr alla batteria e Gabriele Loddo al basso, e li ha spinti a creare il Bad Blues. Blues Quartet. Tra concerti in giro per l'Italia e la scrittura di brani originali, è stato pubblicato il loro secondo album, Back on My Feet, uscito sotto l'etichetta Talk About Records e col patrocinio del Blues Made in Italy. Contiene 6 brani originali e 2 cover, oltre alla partecipazione di diversi musicisti ospiti. E oggi ascoltiamo Frenzy Dance.
Come ogni anno a rientrata in Corsica si pone a questione di l'imparare di la lingua corsa. Per quelli che non sono né in scuole primarie, né in liceo, né all'università e che vogliono imparare il corso, può farlo in cui pratica lingua. La Soju stende esorale e apre 2 scuole in Corti e Moriani in costa orientale. Ci saranno 40 formatori che veneranno a completare l'effettivo, ma pratica lingua che sviluppa un'imparera in immersione propone anche formazione di chitarra, di teatro o anche corsi d'inglese. Nato a Bastia 3 anni fa, la Soju adunisce una 60 di formatori e pensa di non mettere in opera un progetto di società. Sentimo a Lisandro De Zerbi, chi è stato uso creador.
Abbiamo 5 punti che noi vorremmo che il corso entrisse più forse che il luce introdusse in avà, di a gioventù e sport. E dopo ci sarà un altro lavoro in autorismo patrimoniale linguistico, un altro in collaborazione con l'educazione nazionale di modo globale, per nutrire la scuola in documenti pedagogici apertesi dalla produzione di nostri aderenti. Dopo c'è un aspetto nata l'economia e l'intrapresa in lingua corsa, ho fatto di intraprendere e di creare in lingua corsa l'economia linguistica e infine l'apertura di una scuola internazionale e di formazione a distanza per i nostri amici della diaspora e per i ladini di un mondo che sono una miliarda e che noi corsi contiamo di biaci la nostra piazza a mezzo a tutti questi qui.
In complemento o in parallelo di un sviluppo di lingua corsa c'è una moda nuova e di da aginini nomi corsi. Ma sta moda si può dire un di oggi. Sempre si è visto in Corsica nomi come Serena, Sandra, Maria, Pedro, Matteo, queste chiamate classiche. Ma poco a poco si è visto nascere nomi più radicati in dea pronuncia corsa come Giovanni, Angelo, Pedro, Ba, Pedro Santo, Druziana, Lauda. Per adoponimia gli stessa, fora l'appellazione toscana, che face parte di un nostro patrimonio culturale, per sostituiscela per quella più corsa. Ste mode sono state studiate da un professore emerito, Giovanni Giorboli, usantino.
Diremo che tutto è un effetto di moda. Cambia la situazione linguistica, sociolinguistica, cambia la situazione culturale e cambiano anche i nomi quando c'è la possibilità giuridica di farla o esiste. Dunque, in pochi corsi avanzano non si ne briano mica di questa possibilità di dare un nome corso ai violi. Se la datura o la so mica, diremmo che per me i nomi, sia di luogo, di persone, facciano parte della lingua, e come la lingua corsa ha diritto a sua piazza, alla piazza che gli rimane in Corsica, penso che glieli stessa fare anche per i nomi propri.
Interessante, penso che nessuna delle nostre regioni, almeno la mia e quella di Vito, possono fare una cosa del genere. La vedo dura, per esempio, uno va quando nasce un bimbo e gli dà il nome Turi, come sarebbe nel mio caso, insomma, la vedo difficile.
Io sarei Idu, però si potrebbe provare. E a Cagliari vi segnalo l'attività dell'associazione Lingua Via, che organizza corsi di lingua sarda di più livelli, insomma, che sono molto seguiti e molto apprezzati.
C'ho la saluta l'iniziativa di Pratica Lingua, che permette agli adulti di andare a imparare un corso, e anche si vede anche l'inglese o la chitarra. Per i nomi è gli stessi di questa moda nuova di corsificazione. Per la toponimia mi dispiace appena, perché promuove un corso va bene, ma strappassi di esorari che sono anche toscane, per me è un mio amico.
Una volta la musica, quando non c'erano le elettroniche e tantomeno i social, si faceva nei luoghi d'incontro, dai saloni dei barbieri alle taverne. Consapevoli di questa tradizione, due fratelli, Giuseppe e Gianfilippo Sant'Angelo, ennesi di Piazza Armerina, hanno dato alla loro formazione il nome di uno storico locale della cittadina normanna, la Taverna Umberto I. Le loro canzoni raccontano la vita di ogni giorno, i sentimenti, gli incontri, l'amicizia. Dopo Parole dal Sud del 2008, ecco il nuovo disco che segue anni di concerti dal vivo, dove i due autori, ma soprattutto chitarristi, trovano un terreno ideale per raccontarsi. La nuova produzione ha il titolo Passo dopo passo. Noi vi proponiamo il brano d'apertura, Provo a crederci.
A volte ti sento da tutte le parti, e dalla parte che guardo tu non ci sei. A volte ti vedo su un albero che giochi e sorridi come tu sai. A volte cammini dietro di me, mi spingi convinto se mi stanco di te. Mi alzi da terra pulendo i calzoni, a volte ti sento nelle emozioni. Sono qua ad aspettare, almeno ci provo a credere, a sperare, a raccontarmi quello che non so, a quello che sono e che sarò. Accendi una luce nella mia stanza, ritorno a implorare nella speranza. A volte mi vedo sfuggire il presente, riportami in braccio che nessuno mi sente. Cammino fuggiasco in mezzo alla gente, fra liti, bugie, bestemmie e lamenti. Ritorna uno spettro nella mia mente, e un altro peccato mi rende dolente. Sono qua ad aspettare, almeno ci provo a credere, a sperare, a raccontarmi quello che non so, a quello che sono e che sarò. Mi passi davanti, mi fermo un po' triste e mi fai andare avanti. Nessuna parola, ma soltanto il pensiero di toccarti le mani e sentirti davvero. Sono qua ad aspettare.
Si dà l'ascolto di Mediterraneo sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna e di RCFM in Corsica.
La nuova campagna di Emergency, l'organizzazione italiana fondata da Gino Strada, che apre ospedali nelle zone di guerra, ha il volto della cardioanestesista cagliaritana Alessandra Napoleone. Da anni opera soprattutto in Sudan, ma sono stati anche altri paesi sconvolti dai conflitti in Africa e in Asia, in cui ha deciso da volontaria di intervenire. Ad Alessandra Napoleone abbiamo chiesto chi è il bambino raffigurato con lei nella foto scelta da Emergency per promuovere la campagna di donazione fondi e di iscrizione condizioni all'associazione.
È uno dei tanti bambini che vengono operati in ospedale di emergency vicino a Khartoum ed è un ospedale che fa solo cardiologia e cardiochirurgia. È l'unico ospedale in quella parte dell'Africa che è totalmente gratuito.
Che differenza c'è tra fare i medici in Italia e i medici nei paesi africani che ha conosciuto?
Diciamo lo standard è abbastanza un po' più basso, anche perché l'università non è simile a quelle europee, quindi c'è sì una differenza. L'accesso all'università è solo per pochi perché comunque sono molto care e quindi c'è anche una carenza di medici in generale.
Come è nata la sua avventura con Emergency?
Nel 2008, beh, diciamo una storia un po' triste, nel senso che era appena morto mio figlio, il più grande, e io ero abbastanza provata, per cui Gino Strada, che io già conoscevo, mi ha chiesto: dai, vieni con noi in Africa, poi ci serve una cardioanestesista, visto che tu hai fatto tanti anni cardiochirurgia. Quindi io sono partita ad agosto del 2008 e poi da allora ci sono andata periodicamente, fino a quando non sono andato in pensione, allora ho fatto tutto un anno con loro.
In quale dei paesi che finora ha conosciuto ha trovato la situazione peggiore?
In Sudan, fino a quando ci sono andata io, primi anni la situazione era così così perché c'era in corso la guerra col Darfur. I peggiori sono stati sicuramente la Sierra Leone durante l'epidemia di Ebola e la Repubblica Centrafricana, quando sono andata io c'era in corso una guerra civile veramente brutta.
Quale sarà adesso la sua prossima tappa con Emergency?
Sudan, perché trovare cardioanestesisti, cioè anestesisti specifici per la cardiochirurgia, è sempre molto più difficile che trovare anestesisti che possano fare chirurgia generale, chirurgia di guerra.
Bombardati dalle notizie di scontri, dalle irruzioni dei carri armati e dalle proteste dell'intifada, spesso del conflitto medio orientale che vede contrapposti Palestina e Israele, ci sfuggono le vicende intime, personali, di chi vive separato da un filo spinato o un muro. Paola Caridi, scrittrice, giornalista, esperta di Medio Oriente, con una lunga esperienza di soggiorni in Israele, ha scritto molti libri cercando di portare in Occidente la conoscenza di una guerra senza fine, spesso ammantata di ideologia e retorica. L'ultimo suo sforzo è un libro dedicato ai giovani, anche giovanissimi, già a 10 anni si può leggere, ma che è uno strumento utile anche per gli adulti che vogliono capire più in profondità la questione palestinese. Il titolo del volume è Gerusalemme, sottotitolo chiarissimo, La storia dell'altro, pubblicato da Feltrinelli.
È nato come un libro per ragazzi, perché questo mi è stato chiesto da Feltrinelli dopo che 6 anni fa avevo pubblicato un libro per una fascia più adulta. E poi alla fine ho scoperto che questa semplificare la complessità di Gerusalemme serve non solo per i ragazzi ai quali è destinato, ma serve un po' a tutti noi. Cerca di far fare a noi chiarezza su una realtà così complessa e il nodo di fondo appunto è quello di ascoltare la storia dell'altro, non per fare una storia condivisa e quindi non per mettere assieme la storia palestinese e la storia israeliana, cioè lo sguardo di entrambi, ma perché entrambi i protagonisti di questo conflitto sappiano che cosa gli altri pensano del loro rapporto con la terra alla quale si sentono di appartenere.
In pillole, qual è la storia del libro?
La storia è la storia di due ragazze, Sara e Samira, che condividono, ma non lo sanno, una casa. Ed è qui la domanda: di chi è la casa? Di chi è Beth Dajani, la casa dei Dajani, costruita dai nonni, dagli antenati di Samira, la ragazza palestinese, su cui precipita la guerra del 48, la cacciata dei palestinesi da Gerusalemme, da una parte di Gerusalemme. Ed è però la casa in cui Sara, la ragazza israeliana, è nata, ha vissuto, ha giocato, è cresciuta. E quindi la domanda è: la casa è di Samira perché Samira ha il documento di proprietà di quella casa ma non c'è mai entrata, o di Sara che invece in quella casa c'è addirittura nata? Ed è il nodo della questione israelo-palestinese, di chi è Gerusalemme e di chi è la terra, ma dobbiamo proprio avere un documento di proprietà, non dobbiamo considerarsi residenti su una terra che in fondo non appartiene a nessuno perché è di tutti.
Di quale Gerusalemme a questione o conflitto dura da millenni, a paraisi degli è di sicuro a una porta d'entrata, ma quando il politico si mischia al religioso, la situazione diventa complicata. Solo un'urgenza zidellina può schiarire i barè e abbassare i confini. Gerusalemme, diedi tutti, ci toccherebbe a far la gabì a Trump. E poi in questi due servizi siamo come prima a svelare come cosa succede bolle cobre come l'Africani che morono di deficit di cure. Ma per fortuna c'è assoggi e medici come Alessandra Napoleone o francese o professore Cabrol, oggi è scomparso, ma sopra continua. E penso, voglio dire, la mia amica Monica Gualtierotti, chirurga all'ospedale di Milano, che da anni va in Bangladesh.
La musica dalla Corsica.
Ma i pesce, un gabigruppo di Yami Agialesi, firma in deuso nuovo album un omaggio a un grande tenore, Cesare Vezzani, nato a Bastia e che fu una delle glorie maggiori della scena lirica francese durante la prima metà di XX secolo, canzona per Vezzani di Mai Pesce.
Fiolo di Bastia, appena madagnò. Bassi in città di Duno, in quadro squadra via. Sempre quello che ci portava a miagno, colono di imbruello, come un fiore in maggio, malgrado i tempi urri, forte comunione, dava tremai mai mo.
Momento dell'agenda di Mediterradio.
Le giornate di patrimonio si continuano in Portivecchio, sino a oggi. L'ufficio di turismo organizza già a 6 ore e mezzo una visita particolare che ha come ispirazione storie, leggende, tradizioni e fatti insoliti di Bonifazio. Una visita in compagnia di una guida.
Stasera a Sassari, appuntamento con la danza, alle 21 al Palazzo di Città, verrà reso omaggio alla grande Pina Bausch a 10 anni dalla morte. In scena Pablo Aran Jimeno e Jorge Puerta Armenta.
È dedicata al professore Sebastiano Tusa, il famoso archeologo scomparso in un incidente aereo in Kenya nel marzo scorso. Mare Fest, vietato non toccare. Festa del mare per bambini vedenti, ipovedenti e non vedenti, promossa in occasione della 5ª edizione del Villaggio Letterario, che si conclude il 28 settembre a Palermo, ma sarà riproposto il prossimo anno a Napoli.
E si è conclusa anche questa puntata di Mediterradio. Ringraziamo la parte tecnica a Cagliari, la squadra di tecnici oggi capitanata da Salvatore Vargiu e in regia Serena Schiffini.
Un saluto a tutti, qui a Bastia a tecnica c'era Patrick Besseron.
Il nostro tecnico è Giuseppe Di Cara, ma c'è anche l'assistente al programma Alessandra Ribolini e la regista Eliana Escheri. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ma anche al podcast.
Abideci a tutti. Nous retrouverons nos amis sardes et siciliens la semaine prochaine. Mediterradio continue dans nos intermèdes musicaux. Nous entendrons un extrait d'Al vivo de la Semiramide de Rossini, donné à Pesaro en Italie pour les 40 ans du ROF, le Rossini Opera Festival, avec l'interview du nouveau directeur général, le français Olivier Descotes. Nous découvrirons aussi le groupe espagnol Evasion dans Como Quieros et le reportage sur Frank Balesta, photographe national. Naturalis qui a été immergée 28 jours en Méditerranée. Mais avant, la revue de presse méditerranéenne que j'ai concoctée pour vous.
Méditerranée, la revue de presse.
La Mobiline serait-elle au bord de la faillite? Elle est actuellement confrontée à une procédure intentée par des détenteurs de fonds. La famille Onorato, propriétaire de la compagnie, est confrontée à une bataille juridique. Des représentants de fonds d'investissement évalués à 300 millions ont déposé auprès du tribunal de Milan une requête de procédure de faillite contre l'armateur qui détient la compagnie Mobiline et la Toremar. Une information donnée par le journal Il Tirreno. De son côté, l'armateur a tout de suite contre-attaqué en déclarant « Le groupe est en bonne santé, on se défendra contre les calomnies de spéculateurs ». En Tunisie, pour le second tour de l'élection présidentielle, le parti islamiste Ennahda apporte son soutien au candidat très conservateur Kais Saied. Il est opposé à un candidat populiste, Nabil Karoui, qui est actuellement en prison. La Tunisie qui tourne la page, Ben Ali, titre le journal libanais L'Orient le Jour. L'ancien président chassé du pouvoir par la révolution de Jasmin le 14 janvier 2011 s'était réfugié en Arabie Saoudite, décédé la semaine dernière. Il a été enterré à Médine, près du mausolée du prophète Mahomet. Son décès n'a pas fait la une de la presse tunisienne. En Algérie aussi s'annoncent les élections présidentielles, décidées par le président par intérim pour le 12 décembre. Mais la contestation commencée voilà plusieurs mois continue. Les maires de Béjaïa tournent le dos au scrutin, titre le journal El Watan. Les édiles ont décidé de ne pas encadrer les élections, déterminés et engagés dans le mouvement populaire. Ce groupe de maires déclare que son niet est indiscutable, souligne El Watan. Contestation également en Égypte. Les Égyptiens descendent dans les rues pour protester contre le pouvoir du général Al-Sisi. Ils ont bravé l'interdiction de protester contre le pouvoir à Suez. Au Caire, 74 arrestations ont été opérées après un rassemblement sur la place Tahrir, lieu emblématique de la révolution de 2011. En Israël, le gouvernement est introuvable. Le Likoud de Netanyahou et le parti centriste de Benny Gantz n'ont pas encore réussi à constituer une majorité. Le premier a obtenu 32 sièges et le second 33. Il en faut 61 pour obtenir une majorité à la Knesset. Netanyahou, le premier ministre sortant, semble avoir fait son deuil pour former un gouvernement de droite et en appelle à son adversaire pour un gouvernement d'union. Benny Gantz, lui, parle de début de réparation de la société israélienne et assure « L'unité et la réconciliation sont devant nous », déclaration publiée par le site Econostrum. L'été, les festivals fleurissent partout en Méditerranée et certains ont une réputation internationale, comme l'Eurof de Pesaro sur l'Adriatique, qui a vu naître Gioachino Rossini. Le Rossini Opera Festival, qui fêtait cette année ses 40 ans et qui accueillait aussi un nouveau directeur général, le français Olivier Descôtes, à qui j'ai demandé si sa nomination était un signe d'apaisement entre les relations franco-italiennes.
Méditerranée, l'interview.
C'est vrai que politiquement, il y a quelques tensions, mais ce qu'on note sur le terrain, c'est qu'un certain nombre d'acteurs culturels français sont nommés dans les institutions italiennes. Hein. C'est le cas d'un directeur de musée à Naples. Dominique Meyer, directeur de l'Opéra de Vienne, vient d'être nommé au Théâtre de la Scala, la principale scène du pays. Et moi, j'ai donc répondu à un appel à candidature et ma candidature a été sélectionnée au terme d'un processus. Je crois que c'est une bonne chose. La municipalité de Pesaro, l'État italien, Italien était partie prenante de cette nomination et pour moi c'est une grande chance, un grand honneur. Oui.
La culture en général, la musique en particulier, sont de bons médiateurs, y compris politiques.
Je crois que la musique unit les peuples autour d'un certain nombre de caractéristiques, mais comme d'autres arts. C'est vrai que le secteur de l'opéra, c'est un secteur qui s'est, les les années passées beaucoup internationalisé, donc les parcours sont assez fluides. Moi, j'ai vécu à Rome, à Milan, puis à Athènes. Maintenant, je suis de retour en Italie. Le directeur de l'Opéra de Paris vient de Toronto, après avoir été à Paris et dans d'autres villes allemandes.
Est-ce que votre venue à ce festival va faire en sorte que un peu plus d'artistes français vont être présents ici à Pesaro?
Je crois pouvoir le dire déjà cette année. Un couple de metteurs en scène franco-belges assure une production spectaculaire de l'Equivoco Stravagante. Et dans les années à venir, d'autres metteurs en scène français sont prévus. Et puis, on n'oublie pas la fine fleur du chant français. Par le passé, on a eu l'occasion d'accueillir en 2014 Florian Sempé, qui avait fait un magnifique Figaro dans le Babel de Séville. Aussi Annick Massis, magnifique soprano, qui avait chanté aux côtés de Juan Diego Flores. Mais dans les années à venir, et dès l'année prochaine, des Français tiendront des rôles de protagonistes.
Alors cette année, l'Europe a 40 ans, comment on peut le... C'est un festival prestigieux en Italie, bien sûr, mais comment on peut le situer parmi les festivals méditerranéens d'art lyrique?
Bon, c'est un festival monothématique, c'est-à-dire nous donnons Rossini dans sa version musicologiquement révisée par la Fondation Rossini. C'est un festival qui, fait partie de cette poignée de festivals comme Aix, Bayreuth, Salzbourg, Glyndebourg, qui a un prestige particulier du compte tenu de la qualité artistique et notamment des distributions s'agissant de Pesaro. Et on est en train d'établir un certain nombre de liens avec des pays méditerranéens, l'Espagne, la Grèce, et on l'espère aussi la France. Je suis invité au mois de septembre à Toulouse pour le concours international de chant et j'espère bien créer un certain nombre de liens avec des théâtres français à cette occasion et dans d'autres. Un opéra a été construit à Marrakech et donc c'est une perspective qu'on peut tout à fait envisager. S'agissant du Rossini Opera Festival, je dirais que son prestige international reste intact. On a quand même 70% de spectateurs qui sont étrangers et au premier rang desquels les Français.
Aujourd'hui, l'Europ, c'est uniquement de la musique de Rossini. Est-ce que demain, peut-être, y aura-t-il un petit encart et on écoutera peut-être un autre compositeur? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable ou pas?
Le festival s'est construit vraiment autour de la figure emblématique de Rossini, puisque Pesaro est sa ville natale. Et il y a eu des tentatives de mettre en parallèle Rossini et d'autres compositeurs de l'époque. Hein, pendant 3 ans, un opéra a été donné en complément. Pour le moment, on l'envisage pas vraiment, mais on a une série de concerts, de bel canto ou autres, qui permettent de mettre en parallèle l'écriture musicale de Rossini, très particulière, et un certain nombre de contemporains ou successeurs directs, et notamment dans le secteur du bel canto, Donizetti, Bellini.
Est-ce que l'Europe, en conclusion, doit devenir un festival avant-gardiste qui dépasse, je veux dire, y compris la musique de Rossini? C'est aussi un début du ROF, une de vos missions éventuellement?
Il y a toujours eu une volonté du ROF de donner des clés de lecture sur l'œuvre de Rossini qui soient des lectures plurielles, je dirais, c'est-à-dire Tancrède a été mis en scène 3 fois, avec à chaque fois des versions différentes, plus contemporaines, moins contemporaines. Je crois que les mises en scène doivent être équilibrées, mais surtout, il faut donner la liberté maximale aux metteurs en scène pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, par ailleurs, je crois qu'une des missions à venir du ROF, c'est vraiment de consolider des partenariats, qu'ils soient méditerranéens, européens ou même nord-américains, ou même au-delà, puisqu'on a des rapports étroits avec la Corée, avec Oman, avec qui on a un partenariat quinquennal. Consolider ces partenariats pour faire en sorte que la musique de Rossini, et notamment le Rossini moins connu, le Rossini de l'Opéra Seria, soit connue plus largement que qu'ici au ROF. Yeah.
On a beaucoup parlé cet été de la mer Méditerranée, de son mauvais état. Le biologiste et photographe naturaliste Franck Balesta a plongé durant 28 jours en grande profondeur au large de Nice, Monaco et Marseille. Il a voulu voir ce qui reste d'îlots vierges de toute agression.
Méditerranée, le reportage.
Si à la suite de cette mission qu'on a menée là par 28 jours par 120 mètres de fond, les gens retenaient le fait que tout va bien en Méditerranée, je me serais complètement trompé dans ma communication, j'aime pas trop ce mot. Non, la Méditerranée ne va pas bien, la Méditerranée va très très mal. Elle n'est pas morte, tout n'est pas foutu. Il y a ici et là des petits jardins extraordinaires qui sont encore en bon état. Il faut imaginer, peut-être que ce ne sont que des oasis dans le désert. Mais moi, mon approche de la Méditerranée ne se voulait pas objective. C'est l'approche d'un amoureux. J'ai voulu voir ce qu'il y avait de plus beau en Méditerranée. Tous ces petits coins isolés, perdus à grande profondeur. Mon itinéraire n'était pas du tout aléatoire. En utilisant les moyens de la plongée industrielle, tout à coup, à ces grandes profondeurs où j'avais l'habitude de ne passer que 10 minutes, tout à coup, je pouvais y passer des journées entières.
Vous avez plongé avec quel système ?
On utilisait les moyens de la plongée industrielle, c'est-à-dire ces moyens qui, en général, sont réservés aux scaphandriers sur les plateformes pétrolières pour aller faire de lourds travaux sous-marins. Cette façon-là de plonger n'a jamais été réservée que à l'exploitation des ressources. L'idée, là, à la grande différence des scaphandriers, c'est qu'on n'a plus de cordon ombilical, on n'est plus relié à la tourelle qui nous a descendu à grande profondeur par un ombilical qui nous alimente en gaz, mais là, on part en autonomie, en toute liberté, avec nos recycleurs électroniques dans le dos, qui nous permet de nous déplacer, de s'éloigner, d'aller faire ce qu'on veut à ces profondeurs-là. En gros, c'était utiliser l'autonomie de la plongée industrielle, mais la liberté de la plongée autonome en recycleur électronique.
Mais ça n'avait jamais été fait.
Non, la réunion de ces deux techniques-là n'avait jamais été faite. Et surtout, l'usage de la saturation pour faire de l'exploration de la science n'avait jamais été fait. C'est une façon de s'étonner à nouveau d'une Méditerranée que l'on croit connaître, et on s'aperçoit qu'on ne la connaît pas si bien, et pire encore, que l'on croit totalement dévastée, morte, et puis on s'aperçoit qu'il y a encore ici et là des petits paradis perdus. Être optimiste ou être pessimiste, on arrive à la même chose à la fin, c'est-à-dire la résignation.
Alors finalement, avec cette méthode-là, puisque ça vous a permis de rester pas mal de temps sous l'eau, qu'est-ce que vous avez observé de beau et qu'est-ce que vous avez observé de mauvais, je dirais ?
Non, mais de mauvais, j'ai presque rien observé, puisqu'encore une fois, je ne suis pas allé sur les endroits dévastés, je n'avais pas envie. J'avais pas envie de me démoraliser. Ça faisait 18 ans que j'attendais de faire un projet pareil. C'était pas pour aller me démoraliser. Ça nous a pas empêché de faire un travail scientifique rigoureux, mais sur les écosystèmes témoins, c'est-à-dire les écosystèmes qui vont bien, ceux qui sont à ces profondeurs-là, mais qui sont encore resplendissants et qui ont une valeur de témoin par rapport au reste qui va mal. Et donc là, ben, on est allé sur des écosystèmes qui sont très variés. Hein, on a tendance à penser que à ces profondeurs-là, bon, ben c'est un peu uniforme. Ben non, on comprend bien la notion de diversité des espèces. Souvent, on comprend moins la diversité des écosystèmes eux-mêmes, la diversité des paysages. Et donc, un jour, on pouvait être dans une forêt de corail noir, le lendemain, dans des champs de gorgones rouges et d'éponges cavernicoles jaunes, là. Le lendemain, c'était des champs de sables à perte de vue, ces verts marins qui se dressent sur le fond. Ensuite, c'était les falaises sous-marines sur lesquelles s'accrochent d'anciens massifs de coralligènes fossiles. Voilà. D'une manière générale, on est allé à la rencontre de ce que j'appelle les récifs coralliens de la Méditerranée. C'est des récifs qui sont auto-construits par les êtres vivants qui y habitent eux-mêmes. Hein. C'est eux qui fabriquent leur propre support. Donc,
et alors, votre constat, c'est quoi? C'est que finalement, avec là où vous êtes descendu, est-ce que ça peut constituer ce que vous avez vu des perspectives pour la régénérescence de la Méditerranée?
Oui, on pourrait avoir la naïveté de le croire. En tout cas, on a envie d'y croire. Mais non, je ne pense pas. Moi, je ne fais pas beaucoup d'illusions sur le futur de nos écosystèmes et de notre rapport à la mer. Il y a des mesures qui sont prises, on fait tous un peu des efforts, mais à côté de ça, il y a une démographie galopante, on continue à construire, on continue à industrialiser, on continue à faire du commerce, on continue à circuler en mer, donc bon, voilà, je ne fais pas trop d'illusions. On ne pourra pas nier qu'il y a encore des choses qui existent. On ne pourra pas dire, non, mais de toute façon, on peut y aller gaiement, de toute façon, il n'y a plus rien à préserver, quoi. Ben non, il y a encore plein de choses, et je pense que la Corse en est un exemple flagrant.
Antonio, mira, ¿qué pasa, hombre? Ay, moreno, ok, venga, vérete. Ay, moreno, ok, venga, vérete. ¿Quieres, moreno, que venga, vérete? ¿Cómo quieres, moreno, que venga, vérete? ¿Cómo quieres, moreno, que venga, vérete? ¿Cómo quieres, moreno, que venga, vérete? Si tu madre no quiere, si tu madre no quiere, si tu madre no quiere ni conocerme. Ay, moreno, que poquito me quieres, ahí está la do, que poquito me amas. Ay, moreno, que poquito me quieres, ahí está la do, que poquito me amas.
Ay, moreno, que poquito me quieres, ahí está la do, que poquito me amas.
Una vez que te quise fui por el pelo, una vez que te quise fui por el pelo, una vez que te quise fui por el pelo, una vez que te quise fui por el pelo. Y ahora que estás peluco, y ahora que estás peluco, y ahora que estás peluco, ya no te quiero.
Ay, moreno, que venga a verte.
Como quieres, hasta la do, que venga a verte.
Como quieres, moreno, que venga a verte.
Como quieres, hasta la do, que venga a verte. Más quieres que te quiera, que te quiera, que te quiera. Y quieres que te quiera mucho más te quiero yo. Quieres que te quiera, que te quiera, que te quiera. Y quieres que te quiera mucho más te quiero yo. Ay,
quieres que te quiera, que te quiera, que te quiera. Quieres que te quiera mucho más que quiero yo.
Tienes tu ojos los niños como que poquito me quieres. Tienes ojos los niños como que poquito me quieres. A ojos los niños como aceito me quieres. A ojos los niños como aceito me da. Y la cara me queda, y la cara me queda, y la cara me queda mucho más que doña. Ay, moreno, que poquito me quieres. Ahí está la do, que poquito me amas. Ay, moreno, que poquito me quieres. Ahí está la do, que poquito me amas.
Franck Balesta, vous n'avez pas encore plongé avec ce système industriel en Corse. Le ferez-vous ?
J'adorerais pouvoir amener cet outil de plongée jusqu'en Corse. Là, on a fait tout le littoral de Marseille à Monaco. Voilà, il faudrait un peu d'audace pour oser traverser avec cette barge. Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas sur un navire, hein, c'est une barge flottante sur laquelle est passée et disposée notre station spatiale avec laquelle on peut rejoindre les grandes profondeurs. et donc elle est tractée par un remorqueur. Donc peut-être, pourquoi pas, dans le futur, venir faire la même chose en Corse. J'en rêverais parce que j'ai fait beaucoup de plongées profondes en Corse. Il y a des sites merveilleux, des sites sublimissimes, vraiment. Où, moi, j'ai des souvenirs au Cap Corse, au large de Saint-Florent, au large de Calvi. Ne parlons même pas des eaux de Scandola qui sont un joyau absolu de la surface jusqu'à ses grandes profondeurs et qui sont pourtant menacées. C'est même un comble. Je ne comprends pas qu'on puisse vouloir mettre en danger des joyaux pareils. Et donc, évidemment, j'en rêverai. J'ai des souvenirs dans ces eaux-là où je ne regarde même plus dans le viseur de mon appareil photo tellement j'y crois pas, tellement c'est... Ce genre de réflexion où on se dit, mais c'est comme si j'étais sous les tropiques, comme si les tropiques étaient la référence.
Est-ce que vous pensez que la Corse est un des lieux en Méditerranée qui est peut-être le plus protégé ou non ?
Oui, elle est sans doute, elle est un peu protégée de fait. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font des efforts pour la préserver, mais elle est protégée de fait parce que la Corse n'est pas une île extrêmement peuplée, surtout si on la compare aux autres îles méditerranéennes comme la Sardaigne, la Sicile, ou les Baléares, il y a des millions d'individus, et alors qu'en Corse, on sait qu'il y a beaucoup moins de gens. Donc déjà, de fait, il y a moins d'impact parce qu'il y a moins de population, il n'y a pas de grandes industries. Donc tout ça la protège de fait. Et là où les gens verraient, où certains économistes ou certains qui ont la volonté de développer verraient là un retard, ben moi j'ai la naïveté de croire que c'est une avance, c'est plutôt être en avance, voilà. Et j'espère que l'avenir portera raison, que cette façon là de faire, de savoir renoncer à une sorte de croissance dont on n'est même plus le maître, où on devient l'esclave d'un développement et d'une croissance. Je crois que à ce niveau-là, la Corse, c'est très simple. En fait, j'ai eu la chance dans ma vie de voyager dans pas mal de régions dans le monde, grâce à Nicolas Hulot en particulier. J'ai pu visiter plein de pays dans le monde entier. J'ai pas tout vu, hein, bien sûr, mais enfin, j'ai vu quand même pas mal de choses. Eh ben, je sais que si demain on devait me dire tu n'as plus le droit que de vivre à un seul endroit, eh ben, je dirais la Corse.
Voilà, c'est très bien. Vos constats scientifiquement, comment vous allez les exploiter? Comment vous allez...
Il y a eu des études. Là, je vous parle effectivement depuis le début d'un regard très subjectif, d'un regard d'amoureux ou de photographe naturaliste, rien de plus. Mais en parallèle, il y avait quand même des missions scientifiques très rigoureuses. On a fait des prélèvements de sédiments, on a fait des prélèvements d'eau à diverses le long de tous les itinéraires. On a quand même fait plus de 24 stations entre Marseille et Monaco. Donc à chaque fois, on a fait des études très rigoureuses sur aussi le métabolisme de ces écosystèmes. Est-ce qu'ils sont producteurs de... Est-ce que ce sont des puits de carbone ou des sources de carbone? À l'heure du grand réchauffement, c'est très important de savoir si ces écosystèmes profonds participent à la lutte contre le réchauffement ou au contraire. On a fait des études de bioacoustique pour évaluer par l'acoustique la diversité des lieux. Voilà, il y a tout ça. Alors ça demande beaucoup d'analyse, hein, parce que forcément, comme on pouvait passer des heures et des heures à grande profondeur, on a ramené beaucoup de données ou d'échantillons qui demandent à être traités maintenant. Mais on devrait en apprendre plus. Alors des choses peut-être un peu comme ça, qui sont de la pure connaissance sur la biologie des grandes gorgones de Méditerranée. Est-ce que, comme on le présume, elles vivent en symbiose avec des bactéries, ce qui permet de booster leur métabolisme à grande profondeur. Est-ce que les forêts de corail noir, qui pourtant s'étendent sur des hectares, sont, comme on en a l'intuition, des clones, c'est-à-dire des individus géants qui se bouturent et qui du coup sont un seul individu sur plusieurs centaines de mètres carrés? Est-ce que, voilà, ça c'est des questions un peu de biologie fondamentale, mais peut-être des choses plus pertinente pour la gestion de l'environnement, par exemple sur les populations de poissons. Est-ce que ces écosystèmes profonds, où l'on a parfois l'impression de voir des animaux plus gros que près de la surface, en plus grande quantité, est-ce que c'est simplement le fait que ces endroits sont moins impactés par tous les impacts, pollution, surpêche, nuisances sonores, ou est-ce que carrément il y a un petit effet refuge qui ferait que des animaux ont fui des zones superficielles pour aller se réfugier à grande profondeur. J'aime pas trop le mot refuge, parce que refuge, on pourrait voir là que le temps, ça s'arrange et puis ils pourront repartir. Moi, j'y vois pas tant un refuge plutôt qu'une migration définitive. Mais c'est, voilà, il y a toutes ces questions, mais ça demande des traitements de données, des traitements statistiques qui sont un peu longs qui feront l'objet d'un rapport, hein, puisque tout ça a été aussi commandité par l'Agence de l'eau.
Méditerradio se termine, vous êtes attendu la semaine prochaine et n'oubliez pas notre rendez-vous quotidien avec la Méditerranée à 7h10 avec Mare Latino. Bonne semaine à tous.